RMC Intégral Euro.
Pierre Dorian.
Intégral Euro 2024 sur RMC jusqu'à 1h30 du matin. Bien sûr, ce soir, France-Pays-Bas 21h. Vous êtes les bienvenus au 32-16 tout au long de la journée pour parler des Bleus, pour bien sûr débattre avec nous de la compo qu'on va vous confirmer dans un instant. Après match dans l'after, évidemment, en direct de Grenoble. Aujourd'hui, nous sommes chez Olivier Giroud, dès 18h d'ailleurs, avec Rotten sans flamme. Ça va repartir d'ici quelques instants entre l'Ukraine et la Slovaquie. Mais on va bien sûr beaucoup parler de l'équipe de France avec Walid Acharchour, avec Kevin Diaz et avec Roland Courbis. Comment tu le trouves ce match, Roland ? Il n'est pas désagréable à suivre.
Voilà, hein. Donc maintenant, on voit l'Ukraine qui revient un petit peu à un niveau qu'on attendait. Donc la possibilité que l'Ukraine égalise, je la vois très bien.
Alors je vais vous donner un programme détaillé de ces deux prochaines heures dans l'Intégral Euro 2024. Mais d'abord, on va suivre les premières minutes de cette seconde période avec donc une Slovaquie qui mène un but à zéro et des occasions des deux côtés hein, en première période, Arnaud.
Oui, avec le poteau trouvé par les Ukrainiens après l'ouverture du score, ils ont quand même réagi, les hommes de Sergueï Rebrov, mais ils sont pratiquement dos au mur parce qu'ils ont déjà perdu 3-0 contre la Roumanie. On sait qu'avec ces meilleurs troisièmes qualifiés, il est important d'avoir déjà une victoire et un goal average positif qui fait vraiment la différence. Donc une défaite face à la Slovaquie, il serait donc à 0 point moins 4 en attendant de jouer la Belgique. Autant dire que les Ukrainiens, s'il n'y a pas réaction et changement au tableau d'affichage, seraient quasi éliminés. Il faudrait un scénario absolument miraculeux mercredi prochain pendant que les Slovaques sécuriseraient une deuxième victoire si cela venait à être confirmé. Dubravka, le gardien slovaque qui a réalisé des arrêts, le dernier à être de retour sur cette pelouse de Düsseldorf. Petite pluie, c'est pas la grosse averse de Leipzig. Pierre, comme tout à l'heure, Michael Oliver, l'arbitre qui va donner le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Les Slovaques qui mènent 1-0, ce sont les Ukrainiens. Pas de changement opéré à la pause côté ukrainien ou côté slovaque. Monsieur Oliver qui attend que le délégué UEFA lui donne tout simplement le go pour démarrer cette deuxième mi-temps. Voilà, c'est parti. La Slovaquie mène 1-0 et les Ukrainiens avec l'engagement pour essayer de trouver tout de suite le couloir gauche. Les Ukrainiens doivent absolument réagir.
Ouais, et même le match nul ne serait pas un bon résultat pour l'Ukraine avec le 3-0 premier match.
Ils jouent la Belgique au troisième match, mais c'est un match qui nous concerne hein, parce que si on fait deuxième de notre poule, on joue le deuxième de cette poule.
Et a priori,
donc, potentiellement la Belgique.
Ça va se jouer ce soir.
Ouais.
Parce que la Pologne semble un peu inférieure dans ce groupe. Bon,
oui,
il faut jurer de rien parce que les Pays-Bas, ils n'ont pas battu non plus facilement.
Si tu perds ce soir contre les Pays-Bas,
ça peut être un France-Belgique en 8e.
Ça peut être un France-Belgique en 8e. On n'en est pas encore là, mais on peut.
On n'en est pas là, mais c'est bien d'avoir ça en tête quand on suit ce genre de match.
Exactement.
Et on rappelle que c'est la différence particulière qui fait la différence dans la poule. Hein.
Ah ouais, en cas d'égalité.
Oui. En cas d'égalité. C'est pas la différence de but au
départ. Différence particulière.
Ah d'accord.
Donc la, tout à l'heure.
Donc la Belgique pourra pas rattraper la Slovaquie hein, si.
Non. Oui, et la France ne pourrait pas rattraper les Pays-Bas s'il y a des fêtes aussi.
Voilà. Donc dès ce soir, on saura à peu près à quoi s'en tenir. Hein. Ouais. Surtout si la Slovaquie bat l'Ukraine en fait.
Ouais,
c'est ça. Très bien. C'est reparti donc entre la Slovaquie et l'Ukraine. Il y a eu un rythme assez intéressant en fin de première période. Pour l'instant, bon, il s'est rien passé. Il y a un arrêt de jeu.
Oui, il y a eu un choc à la tête après 30 secondes de jouer hein, sur le côté gauche ukrainien et on rend le ballon justement aux Ukrainiens. Il y a Troubin qui a remplacé Lounine. Choix du coach hein, après les bourdes de Lounine lors du premier match et de la défaite contre la Roumanie. On a changé pour mettre le gardien de Benfica qui aurait peut-être mieux fait sur le but mais qui a fait une grosse parade hein, juste avant la pause. C'était une balle de 2-0 pour les Slovaques et on essaie déjà de harceler un petit peu les Ukrainiens côté Slovaquie. Ils avaient très bien démarré le match hein, 20 premières minutes très consistantes récompensées par ce but et ensuite c'était un peu plus dur pour la sélection slovaque qui avait atteint les 8e de finale lors de l'Euro en France. Ils n'avaient pas passé le premier tour hein. Il y a 3 ans lors de l'Euro après notamment un 5-0 encaissé contre l'Espagne. C'est reparti donc à Düsseldorf. 1-0 pour la Slovaquie.
Alors je vous donne les rendez-vous de l'après-midi jusqu'à 18h, hein, jusqu'au coup d'envoi de Pologne-Autriche, l'autre match du groupe de la France. On va démarrer là tout de suite sur le jeu des Bleus, la qualité de jeu des Bleus. Est-ce qu'on peut être champion d'Europe en jouant, en pratiquant un jeu aussi triste? Et puis l'attaque à 17h avec ou sans Mbappé. Thuram joue-t-il gros? Ce soir, on va parler des Anglais aussi. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond pour l'Angleterre à 16h30 avec Julien Laurence. Il y aura des infos Mercato sur l'OM aussi à 17h30. Alors, Mercato, pas sur les joueurs, mais vous êtes nombreux à vous demander pourquoi c'est pas encore signé et pourquoi c'est pas encore officiel pour Roberto De Zerbi. On va faire le point avec Florent Germain aux alentours de 17h30. Restez bien avec nous. Et puis, a priori, hein, jusqu'ici, on a réussi à le faire. On finira avec un mini Kikadi. Quelques questions sur cet Euro. J'espère que vous êtes bien au taquet sur l'Euro 2024 et sur l'histoire de l'Euro.
Ouais, si c'est pour pas poser une question sur le chauffeur du bus autrichien.
Ça peut
ouais.
arriver.
Ouais.
Je regarde.
T'aimes bien ça, ouais.
Walid il râle déjà avant même de connaître les questions.
Ouais, parce que hier, j'ai demandé l'arbitre.
Ouais, non, ouais, l'arbitre.
Ah, l'arbitre de France Pays-Bas, c'est important quand même. Non,
c'est
Anthony Taylor.
C'est pas faux.
Bon. 1-0 pour la Slovaquie, 3 minutes de jeu, Arnaud Valadon.
Depuis la 49e, on joue la 49e avec les Slovaques qui ont le ballon derrière, qui essayent un petit peu de repartir sur les mêmes bases qu'en première mi-temps. Il y a un peu plus de choc. Là, l'image de Yarmolenko qui a mis un petit coup à Skriniar qui se tient l'épaule droite.
Ah.
Attention, on frissonne un petit peu, qui a fait allez, une première mi-temps assez correcte.
Milan Skriniar blessé.
Imagine, ce serait dommage.
Première mi-temps correcte hein, de Milan Skriniar qui évolue à gauche de cette défense centrale avec Denis Vavro, le joueur de Copenhague. Et un rythme un petit peu bizarre. Hein. Ouais, ça se met là. Brasco a mis un coup à un joueur slovaque. Voilà, pour l'instant, ça joue moins au foot. Ça se donne un peu plus de coups. Les deux équipes qui ont un petit peu du mal à repartir sur des bases foot élevées. Alors que la première mi-temps était de bonne facture. Hein, c'est ce que vous disiez, messieurs. Allez, peut-être le ballon avec Zinchenko qui peut essayer d'alerter pour les Ukrainiens qui passent la ligne médiane avec Timchik sur le côté droit. Timchik qui va revenir intérieur, qui va essayer de s'appuyer sur Soudakov, le jeune meneur de jeu du Shakhtar, qu'on n'a vraiment pas trop vu en première mi-temps. On a vu un peu Mudryk qui a eu 3 ballons, mais qui les a tous mal négociés entre une frappe en tribune, un centre dévié et une passe en retrait coupée par le gardien slovaque Dubravka. Oui, là, techniquement, on n'est clairement pas parti sur de bonnes bases la 50e.
Les Ukrainiens, ils sont quand même avec un autre état d'esprit. Ils sont quand même beaucoup plus agressifs sur le porteur du ballon. Alors, ils n'arrivent pas à le récupérer, mais au moins, ils défendent. En tout cas, ils essaient de défendre en avançant.
Slovaquie-Ukraine, donc 5 minutes en deuxième période. Le score est de 1-0 pour les Slovaques. On revient sur l'équipe de France. C'est bleu qui nous endorme.
On a mis un petit peu de temps à se mettre en mouvant, en rythme.
Il y a Dembélé, il faut aller provoquer, il faut être utile Dembélé, parce que là pour l'instant, c'est pas le cas. Une fois.
Mais ça s'est passé dans un climat de convivialité.
La contre-attaque n'apportera plus rien. Thuram n'y a pas
que... Il n'a pas regardé le but.
Levez des doutes. Si vous, vous en avez, je ne sais pas si ça vous allez les enlever.
Côté.
Si vous voulez qu'on domine tous nos adversaires, qu'on gagne 5-0, il ne faut pas venir à une Coupe du Monde.
L'équipe de France passe par un petit trou de souris avec le but de Weber à la 38e minute contre son camp.
Oui, c'est très bien. La victoire, c'est la chose la plus importante pour que la fête soit vraiment malienne.
moi, je suis habitué hein, parce que dans le Moscato Show, on n'hésite pas à se moquer de Didier Deschamps, mais comme c'est une icône du foot français, vous êtes le moins habitué. Je vois Kevin qui est mort de rire.
C'est pas bien de se moquer. Je n'avais jamais entendu ce jingle, mais franchement, il est exceptionnel.
Faut que t'écoutes plus le Moscato Show. Grosse occasion pour l'Ukraine, Arnaud Valadon.
Ouais, avec un super travail de Mudryk sur le côté gauche. Grand pont, il va centrer. Dovbik qui est dans une position idéale à 6 mètres de la cage slovaque qui rate complètement sa tête. C'est peut-être pas terminé pour les Ukrainiens. Ils ont récupéré une touche sur le côté droit. Ah, mal négocié. Ils ont vraiment les billes. Ils ont vraiment les occasions, les Ukrainiens, ils risquent d'en s'en mordre les doigts parce que c'est la Slovaquie qui mène toujours 1-0 la 52e.
Là, pour le coup, Mudryk avait fait un très très gros boulot avec le petit pont.
Les qualités, ils les ont, hein, on le voit.
Avec le petit pont près de la ligne médiane et derrière la course, et le bon centre pour Dovbik. Et là, Dovbik, il doit faire mieux de la tête là sur l'action.
Alors, l'équipe de France face aux Pays-Bas, on va vous confirmer la compo qui était tout à l'heure incertaine, qui était probable, disons, et puis on va débattre de la qualité de jeu. Est-ce que ça peut suffire pour gagner l'Euro ? Loïc, d'abord, les infos toutes fraîches, RMC Sport.
Ouais, c'est confirmé pour la compo qu'on vous donnait tout à l'heure. Donc Maignan dans les buts, la même défense que face à l'Autriche avec Koundé et Théo Hernandez sur les côtés, Upamecano, Saliba pour la charnière centrale, et donc on va dire un milieu à 4. On va voir comment tout cela va s'articuler une fois que le coup d'envoi aura été donné, mais à 4, Rabiot à gauche, Dembélé à droite, Kanté, Tchouaméni qui fait son retour donc dans le 11 de départ, et donc devant Thuram, Griezmann, Mbappé débutera sur le banc. Possibilité peut-être de le voir rentrer avec son masque en cours de jeu.
Alors, ils ont été pas mal interrogés depuis le début de l'Euro sur la qualité de jeu. Ils commencent à avoir l'habitude, c'est notamment Antoine Griezmann hein, souvent qui va au feu sur cette question. Qu'est-ce qui s'est dit exactement, Loïc ?
Alors, c'était plutôt avant d'arriver en Allemagne sur la préparation à Clairefontaine, les tout premiers jours où effectivement on avait croisé Antoine Griezmann qui avait lui-même évoqué le jeu chiant, je cite, hein, de l'équipe de France, qui est parfois d'ailleurs assumé. Mais depuis l'installation en Allemagne, on a surtout eu comme thématique médiatique médiatique, la situation politique, le nez de Mbappé, tout cela a pris un peu le pas sur le reste. Mais hier, Griezmann était de nouveau face aux médias en veille de match. Donc on est revenu sur ce niveau de jeu ennuyeux avec lui, notamment face à l'Autriche.
Non, mais après, le mot chiant, ça, je l'ai repris chez vous, parce que vous le dites souvent. Mais non, mais voilà, c'est un peu ce que je disais. Il y aura des matchs où on aura besoin de ça, être costaud défensivement, à rien laisser à l'adversaire. Et le match parfait est venu, c'était contre l'Autriche, pour le montrer. Donc voilà, très heureux du répondant de l'équipe.
Alors, après 12 ans de Deschamps en équipe de France...
Je t'interromps, Loïc, parce que ça y est, l'Ukraine vient d'égaliser. Arnaud Valadon.
Chaparenko trouvé à l'entrée de la surface de réparation à la 54e. Centre magnifique à ras de terre et ça fait un but partout pour l'Ukraine face à la Slovaquie. Et c'est plutôt logique, un beau mouvement.
C'est aussi mérité, oui, comme en première mi-temps.
Avec Dovbyk qui avait encore un petit peu hésité juste avant sur l'action. Et Zinchenko qui est venu. Pourtant, les Slovaques étaient en attaque. Ils se sont fait contrer là-dessus. Ils ne sont pas tous revenus. Et Mudryk qui... une nouvelle fois là pour le coup a fait vraiment le bon choix. Il avait décalé Dovbyk sur le côté gauche de la surface de réparation et ensuite c'est revenu, il avait mis en retrait, c'est peut-être plus Brasco qui a fait ce centre à rate, non c'est bien Zinchenko, centre à rate terre fort dans la surface de réparation et au point de pénalty. Chaparenko, un peu façon l'Allemagne hein, avec un but de Moussiala je crois hein, avec ce ballon, ou de Gundogan avec ce ballon mis en retrait.
Ça fait donc un partout. Mérité, après mérité, combien 5-6 minutes
55e.
Ouais, 9 minutes en
c'est mieux l'Ukraine. Depuis la 35e, c'est mieux.
On revient sur l'équipe de France avec Loïc.
Ouais, après 12 ans de Deschamps en équipe de France, on ne vous apprendra rien hein, si on vous dit que le sélectionneur s'en fout un peu de bien jouer, car selon lui, de toute façon, ce qu'on retiendra à la fin, c'est le résultat. Ça a toujours été sa philosophie. Et après le match face à l'Autriche, malgré le contenu moyen, Deschamps n'est pas inquiet.
Si on n'avait pas d'occasion et on aurait pu en avoir plus, des situations comme je vous l'ai dit après le match contre l'Autriche, avec des meilleurs choix auraient pu nous amener à avoir des occasions. Après l'efficacité, plus on l'a, mieux c'est. Je salue le boulot du staff médical et de Cyril Moine pour faire en sorte d'optimiser la récupération sans pouvoir faire de miracles. Il y a toujours des axes d'amélioration. Après, je fais en sorte de mettre les joueurs dans les meilleures dispositions. On peut toujours mieux faire. Après, il y a la qualité que peuvent avoir certaines équipes à venir presser très très haut. C'était une des forces de cette équipe autrichienne. Les Pays-Bas peuvent le faire.
Et l'opposition sera sans doute effectivement d'un niveau supérieur ce soir face aux Oranges. Reste à savoir si les Bleus seront aussi hausser leur niveau de jeu et se montrer plus séduisants dans le jeu.
Exactement.
C'est quand même une question quand j'entends Didier Deschamps. Il aime le foot ou il aime juste gagner?
Il aime gagner.
Il aime gagner, enfin.
Après, tu peux pas dire qu'il aime pas le foot. C'est un drogué au foot.
Tu m'entends ce que
je suis pas sûr qu'il soit un passionné de jeu.
Ouais.
Il aime gagner.
On parle de foot, moi je te parle du jeu. Hein.
Oui, niveau-là, il s'en fout. Enfin, c'est pas qu'il s'en fout, mais à ce niveau-là, t'es jugé sur tes résultats à ce niveau-là.
Mais je veux dire que tu vois, quand il regarde Manchester City ou quand il regarde le Barça de Guardiola, je sais pas, Johan Cruyff des années 70, je sais pas, il aime regarder ce genre de match.
Je peux pas répondre à sa place, mais.
Je sais pas. En fait, des fois, tu te demandes vraiment si, pour lui, c'est important. Non, mais c'est pas question de le défendre. Chacun a sa vision. Il y en a qui aiment gagner plus que le jeu. Mais le souci, c'est que quand il parle de foot, il a pas. Je te parle même pas d'aimer le foot. Bien sûr, ça a été son métier, ça l'est encore. J'espère qu'il aime.
Je suis convaincu que c'est un passionné comme Thierry Henry, par exemple.
Mais est-ce qu'il dégage une fois dans une interview ou dans une conférence de presse un peu de passion, en fait?
Je crois qu'il faut pas le chercher. Il faut pas le chercher là-dessus dans son rôle de sélectionneur. Peut-être que si tu fais un déjeuner avec lui et que tu parles foot, tu l'auras cette passion-là.
Très curieux.
C'est pas sa préoccupation.
Non, mais attention, j'ai quand même parlé avec beaucoup de gens qui sont comme ça, des grands pragmatiques du foot, et ce qu'ils vont te dire, c'est ouais, de toute façon, on peut parler de beaux jeux. Hein, alors on peut mettre le bon pied, le ballon sur le bon pied de l'adversaire, on peut faire un bon centre, mais au final, on a du plaisir que si on gagne, en fait. Et c'est ce que je me demande. Est-ce que Didier Deschamps a du plaisir? Dans les nombreuses compétitions, il n'a pas gagné, en fait.
Il l'a déjà dit, ça.
Parce qu'il ne faut pas oublier que Didier Deschamps, il a gagné qu'une fois avec l'équipe de France. Ça fait 14 ans qu'il est là.
Trois finales, quand même.
Je m'en fiche. Il a gagné qu'une fois.
Tu ne peux pas dire « je m'en fiche ».
Bah si, parce que souvent on dit « ah ouais, bah ouais, mais,
oui, mais gagner une fois.
Les Pays-Bas, ils ont fait 6 finales de coupe d'Europe ou de Coupe du Monde dans leur vie, dans leur existence, mais ils n'ont pas gagné.
Gagner une fois en 14 ans, pour n'importe quelle nation, c'est pas mal. Gagner une Coupe du Monde en 14 ans, c'est pas mal, finalement. Donc, quand tu as fait 3 finales et dont une gagnée, je pense que le bilan, il est bon.
Après, Pierrot, moi, je suis d'accord avec toi, mais si on écoute le Deschamps et on lit le Deschamps, lui, c'est la gagne ou rien. Donc, en fait, moi, je pourrais être d'accord avec toi et valoriser les finales, mais à chaque fois, lui, il te dit, c'est soit on gagne, soit...
c'est la gagne ou rien à chaque fois, donc faut lire de cette manière.
Autant en 2016 qu'en 2022, il est pas loin, hein, donc bon.
Oui, mais d'accord. Ça, oui, mais attends. En 2016, tu perds contre la pire équipe du Portugal des 20 dernières années, oui, avec un but de Eder.
Finale, là-haut.
Oui, mais peu importe. Tu perds contre une équipe qui est supérieure.
C'est pour ça qu'on pose la question, est-ce qu'on peut gagner avec ce jeu-là ?
Tu perds contre l'Argentine et tu perds contre une équipe qui t'est bien supérieure. Donc c'est pas genre, ah, t'as perdu au pénalty. Non, tu t'es fait balader, t'as réussi par miracle à aller pousser au pénalty et derrière, t'es quand même éliminé. Enfin, t'es quand même perdant.
C'est bien pour ça qu'on pose la question, est-ce qu'on peut gagner avec ce jeu-là ?
Donc on peut gagner puisqu'on l'a déjà fait. Mais est-ce que c'est le meilleur moyen de gagner ? T'as intérêt d'avoir un sacré pays de quasiment 70 millions d'habitants avec un gros réservoir de joueurs.
Mais alors, est-ce que Roland, est-ce que tu vois cette équipe de France-là gagner en jouant comme elle joue actuellement ?
Ben disons que je pense qu'on tourne en rond, on se mélange un petit peu les pinceaux avec qu'est-ce que préfère Didier, qu'est-ce que préfère pas Didier. Ce que je regarde, c'est que sur ces 12 dernières années, ça fait 12 ans qu'il est là, oui. il y a eu quand même, pour moi, certaines erreurs grossières. Hein. J'en donne une. Quand, par exemple, je voyais côté droit Tolisso, Koundé, donc quand je voyais côté gauche Matuidi, c'était un petit peu une organisation spéciale dans le sens qu'elle était plus solide que ce qu'on pouvait imaginer. Donc maintenant que Didier Deschamps ne réfléchisse pas à l'équilibre de son équipe de France, j'y crois pas. Bon, ça serait tout à fait anormal. Quand par exemple, on veut parler de bonnes choses, il y a eu les bons matchs en 2018, et il y a eu pour moi le match le plus catastrophique, c'est contre la Suisse, pas parce que nous perdons au tir au but, parce que l'organisation que Didier a fait dans ce match-là, c'est tout simplement non pas une erreur, c'est une faute professionnelle. Quand tu mets l'anglais au milieu de Varane et de Kimpembe, parce que Pogba t'a dit, coach, ça serait mieux qu'on joue avec trois arrières centraux. Et ensuite, quand en deuxième mi-temps, Didier a mis l'équipe qui aurait démarré le match, ce qui devient de 0-1 à 3-1, après ça fait 3-3, on dit c'est tout à fait anormal de perdre et de faire 3-3 quand on mène 3-1. Non, c'est tout à fait anormal de mettre une composition d'équipe horrible en première mi-temps
parce que alors, c'est celui où l'équipe de France était censée un peu plus jouer au football.
Au final,
il a fait n'importe quoi avec son 5-2. Il a fait n'importe quoi avec son 5-3.
Il a dit avant le match.
Non, je ne peux pas te dire, c'est facile de le dire après. On l'a dit avant le match. On l'a dit avant le match. On est
la seule fois,
il faut réécouter les bandes.
C'est la seule fois où il a eu une intention joueuse.
Il s'en est mordu les doigts. Non,
moi je veux juste revenir au débat.
Il y avait même les trois arrières centraux et le couloir gauche, c'était
Rabiot à gauche.
C'est un des records d'un truc impensable.
Prenons la dynamique récente sur les matchs, notamment les gros matchs. Ok ? Donc la dernière Coupe du Monde. Tu prends le match contre l'Angleterre. On passe quand même avec un Harry Kane qui a un pénalty à la 84e, rate quoi, un pénalty contre Lloris. Ouais. Non mais tu passes sur un trou de souris ou sur la deuxième mi-temps, t'es complètement mangé, on est d'accord là-dessus. Mm-hmm. Contre l'Argentine, heureusement Kylian Mbappé fait un match extraordinaire pendant 80 minutes, on voit pas le jour.
Si ce n'est que...
Ni en prolongation.
Ces changements changent le match quand même.
Bon, enfin, ces changements changent le match, d'accord, ok. C'est surtout Kylian Mbappé qui change le match et le pénalty.
Et le pénalty
à la 82e qui remet le doute chez les Argentins, mais sinon globalement.
Non mais d'accord, Pierrot, tu n'as pas gagné la Coupe du Monde.
Je te dis juste qu'encore une fois, si tu regardes la réalité face au gros, on est quand même en grande difficulté. Angleterre et Argentine sur la dernière compétition. Tu reprends le dernier Euro, le match contre le Portugal, pas bon. La victoire contre l'Allemagne sur le CSC de Hummels, pas bon du tout. Le match contre la Suisse, tu dois être mené 2-0 si Ricardo Rodriguez il met le pénalty à la 55e minute, le match il est fini. T'as fait une mi-temps qui était catastrophique. Derrière, heureusement que t'as Benzema, Pogba, etc. Le 3-1, tu te fais manger derrière et tu te fais éliminer. Sur la compétitivité, sur les grosses rencontres, il faut le dire, pour l'instant, on n'est pas... Si tu rajoutes à ça le dernier match amical contre l'Allemagne où t'as pris une leçon, moi
la Ligue des Nations où t'es mené 2-0 face à la Belgique avant de faire un miracle et de gagner...
Moi, je te dis, quand même, je sais pas, je... J'attends sur la dynamique récente contre les gros pour l'instant.
Donc pour vous, la réponse est non, tout simplement.
Soit il y a des miracles.
Tu sais très bien qu'avec Didier Deschamps, on ne peut pas répondre non.
Soit il y a Kylian Mbappé, soit il y a le projet Kylian Mbappé.
Voilà, je te rajoute un joueur quand même. Après, on va essayer de suivre, de comprendre un petit peu l'équilibre de notre équipe de France dans ce que peut, de ce que peut faire comme choix Didier. Mais on va virer, on va tourner. L'équipe de France avec un Mbappé en grande forme, tu as la possibilité d'être champion d'Europe. Sans Kylian Mbappé, j'y crois pas.
Et moi, même avec un Kylian Mbappé en grande forme, je te mets pas aujourd'hui ma maison sur l'équipe de France qui gagne l'Euro. Non, j'ai envie de voir les matchs contre l'Espagne, contre l'Allemagne. J'ai envie de voir ces matchs-là.
Je ne dis pas qu'ils vont la gagner, je te dis ils peuvent.
Oui, c'est
avec
ça.
Avec un Mbappé en forme.
De toute façon, c'est le projet de Didier Deschamps. Le projet de Didier Deschamps, ça a toujours été ça. C'est équipe très, très solide, et aujourd'hui on donne la liberté à Kylian Mbappé de faire la différence. C'est ce qui s'est passé sur la dernière Coupe du Monde, c'est ce qui s'est passé. Bon, dernier Euro, ça a pas marché.
Du coup, soir sans Kylian Mbappé, tu vois pas la France gagner?
Les Pays-Bas, la fiabilité des Pays-Bas,
on peut pas dire que c'est une grosse nation.
Je sais, voilà, quand tu vois le milieu de terrain, c'est le milieu de terrain du PSV Eindhoven, l'attaque, c'est même Fils de Paille qui a une saison blanche.
Tu peux battre les Pays-Bas sans Mbappé. Je pense qu'avec quand même les équipes qu'on voit, s'il n'y a pas un Mbappé en forme, je ne vois pas comment on peut être champion d'Europe. Mais le football réserve des surprises.
Alors, le jeu triste de l'équipe de France peut-il lui permettre de gagner quand même? Vous êtes les bienvenus au 32-16.
On attendra après la pub ta réponse à toi aussi.
Parce que tu veux.
Tu penses qu'avec ce jeu-là, tu peux...
Non, moi,
après, on peut tout faire dans le foot. Hein. La Grèce a gagné un euro en étant dégueulasse. Le Portugal aussi. Donc, tu peux des fois arriver. Mais est-ce que tu penses que c'est le meilleur?
Je vous ai contré parce que j'avais l'impression que dans votre discours, tout n'était presque... que de la, de la chance.
Non, la qualité, la solidité, chance.
La solidité défensive. Et ça passe que de chance.
Moi, Pierrot,
je suis désolé, l'Angleterre contre la France a touché ses limites.
Non, mais Pierrot, moi, je t'ai pas parlé de la 2018. Au 2018, je trouve qu'il y a une solidité. C'est maîtrisé. Le match contre l'Uruguay, etc. Je t'ai pas parlé de 2018, où pour moi, les matchs restent quand même maîtrisés. Où t'es meilleur que l'Argentine, où t'es meilleur que l'Uruguay, ou sur la finale, même si les 25 premières minutes sont pas dingues, tu restes quand même plus dangereux que la Croatie. Je t'ai parlé des dernières échéances, c'est-à-dire l'Euro et la Coupe du Monde. Si toi tu vois une équipe qui maîtrise son sujet, eh ben moi non.
Alors d'en parler et on va accueillir Yannick au 32-16. D'abord on revient sur le match entre la Slovaquie et l'Ukraine, Arnaud Valadon.
La 65e, un but partout, il ne se passe pas grand-chose dans cette deuxième mi-temps. On a vu le latéral gauche slovaque visiblement se claquer au niveau de l'adducteur. Pas beaucoup d'occasions, si ce n'est Chaparenko qui à deux reprises a manqué son centre et ça a failli finir au fond des filets si Dubravka n'avait pas été vigilant, notamment sur une tentative. Clairement, le match a baissé en intensité, la 66e, un but partout.
Et on revient tout de suite dans l'intégrale Euro 2024 sur RMC.
RMC Intégrale Euro.
Pierre Dorian. C'est l'Intégrale Euro 2024 avec Roland Courbis, Kevin Diaz, Walid Acharchour. On suit Slovaquie-Ukraine. Il y a un but partout pour l'instant à 25 minutes de la fin du temps réglementaire. Mais on débat de l'équipe de France 21h ce soir. Pays-Bas, France, le jeu triste des Bleus, peut-il lui permettre de gagner quand même?
On se
place bien sûr dans le cadre de cet Euro, mais aussi du match de ce soir face aux Pays-Bas. Le point sur Slovaquie-Ukraine, Arnaud Valadon.
La 68e, un but partout entre la Slovaquie et l'Ukraine. C'est le moment des changements. On a changé tout le couloir gauche côté slovaque notamment. On a changé Dovbyk, auteur d'une partie, on va dire, assez moyenne, autant que Mudrik, qui n'a pas été bon en première mi-temps, est beaucoup plus juste en deuxième, avec certes peu de ballons quand même. C'est plutôt logique ce score de parité pour l'instant, parce que vraiment les deux équipes, autant ont proposé pas mal de football en première mi-temps, autant en deuxième. C'est un petit peu plus compliqué, même si les Ukrainiens ont égalisé à la 54e, qui était menée un but à zéro. La 68e à partout.
Le jeu des Bleus, le jeu soporifique des Bleus, on en parle avec Yannick. Bonjour Yannick.
Ouais, bonjour.
Supporter bonjour de l'équipe. Brest, t'as vu un peu de jeu cette année, toi?
Ah bah ouais,
salut, moi je suis... Profites-en parce que t'en reverras plus jamais, hein.
Salut Yannick.
Ouais mais ouais, nous on l'aura vu une fois au moins, c'est bien. Faut... Et puis les gars, prenez un petit Temestin, l'Exomil, regardez pas le match ce soir, ça a l'air de vous faire souffrir.
Non mais honnêtement... Non, pas du tout, on souffre jamais, on aime parler de football et débattre de l'équipe de France,
ouais,
des Deschamps.
Bah, moi le point que je voulais soulever, parce qu'on a affaire à des spécialistes avec vous, c'est expliquez-moi comment ça se fait que Koundé et Dembélé soient toujours sur le terrain là. Expliquez-moi. Parce que moi, d'ailleurs, je vous ai entendu tout à l'heure dire « Ouais, 2018, c'était bien. Ouais, bah, 2018, l'arrière-droite, c'était
cohérent,
Pavard. »
C'était cohérent et solide. C'était cohérent.
C'était Pavard. Moi, je voudrais revoir Pavard. Et si Dembélé ne s'entend pas avec Pavard, bah, sortez-moi Dembélé et mettez-moi Coman. Parce que moi, franchement...
Coman, il n'est pas prêt physiquement, Coman.
bon bah alors, alors s'il n'est pas prêt physiquement, il ne doit pas être dans la sélection, point barre. Mais moi franchement Koundé bah il passe pas les lignes, il défend correctement, mais franchement
Koundé a fait son match défensif, hein, tu sais, oui. Toujours pour parler d'organisation,
ouais,
des champs,
est-ce qu'il a fait un aussi bon match défensif
liberté
qu'en
à son arrière
de
gauche et il demande à son arrière droit de défendre,
est-ce que comme en finale de Coupe du Monde quand Di Maria l'a mangé ça on en parle ça des fois, non jamais,
mais pourquoi Pavard il s'est pas fait manger toute la Coupe du Monde 2018 Pavard,
non mais Pavard quoi, Pavard il nous a pas un peu aidé sur la Coupe du Monde 2018.
Oui mais offensivement, si tu veux.
Mais ce but, mais défensivement, ça a toujours été le point faible de l'équipe de France en 2018. Bah, hein.
Pavard il a fait une connerie dans sa carrière en équipe de France à l'Australie. Et ok, d'accord. Mais vous le flinguez, j'ai l'impression que vous faites comme le gardien du PSG là, avant, comment il s'appelait, Landreau. Landreau il a fait une connerie en équipe de France.
Il en a fait une, Landreau. Landreau, bah, il y a des compiles de ses boulettes, Landreau, arrête.
C'est venu du cœur, ça, pour
tu peux faire un bon couscous.
Oui, c'est un mauvais gardien. C'est un mauvais gardien, mais je vois que j'ai affaire à des spécialistes.
Non, c'est
donc
pas un mauvais gardien, mais il était capable de tout, du meilleur comme du pire, Landreau, quand même.
Et pour toi, là, sur la compète, l'enjeu, c'est Pavard ou Koundé?
Non, mais c'est l'animation sur le côté droit.
Alors, qu'est-ce que tu penses de l'animation globale des Bleus?
Bah moi vous me virez Dembélé et Koundé et vous me mettez, et pourquoi on a fait venir Jonathan Clauss par exemple, si vous aimez pas Pavard, mettez Jonathan Clauss.
C'est une solution.
Mais parce que pour lui, il fera pas jouer deux latéraux, Théo Hernandez et Jonathan Clauss offensif.
C'est ça dans ton débat, c'est la philosophie
voilà,
de Deschamps.
C'est la philosophie, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, on va pas.
J'espère vraiment que l'équipe de France ira loin dans cette compétition. Parce que le football, moi je vais même aller plus loin, mais pour moi le football c'est plus que du foot. Et quand tu as un pays qui vacille un peu, bah, des fois ça peut un peu unir. Et on espère qu'ils auront bien sûr les meilleurs résultats parce que ça reste un euro et que c'est toujours bien pour le football français quand on a des résultats. Par contre, si on reste uniquement sur le sportif, moi je pense que l'équipe de France pourrait aller vers de grosses déconvenues s'ils n'ont pas un N'Golo Kanté au niveau où ils ont eu il y a quelques jours, et si Mbappé continue de rater des occasions, et on a plus le Mbappé de cette saison au PSG que le Mbappé qu'on a eu l'habitude de voir notamment en équipe de France.
Non, mais bah, même ça Kevin, même Mbappé il va falloir qu'il soit aidé dans l'animation offensive.
Alors, dire que
Mbappé face à des grosses sélections, moi je suis désolé, il va pas pouvoir faire des miracles solo. Quand je vois la qualité technique de ce qu'il y a autour, notamment je veux bien moi les attaques rapides, mais envoyer des longs ballons sur Mbappé à un moment donné, quand tu vas jouer des équipes qui peuvent gérer la profondeur, ça va être compliqué, hein.
C'est pour ça que si tu veux mon avis, Kevin, parce que ça fait trois fois que tu me le demandes, pour moi Deschamps a déjà prouvé qu'en jouant un jeu un peu restrictif, ça peut aller au bout. C'est pour ça que vos réserves sur le fait d'aller en finale...
Il a déjà prouvé combien de fois ?
Aller en finale, si tu veux.
Combien de fois il l'a prouvé ?
C'est deux équipes qui vont en finale.
D'accord,
hein.
Mais combien de fois il l'a prouvé ?
Bah alors, laisse-moi parler. 2018, pour moi, c'est l'exemple type. C'est-à-dire que tu as cette solidité, mais ce que tu n'as pas aujourd'hui, que tu as à l'époque, c'est Paul Pogba. C'est-à-dire que tu as quand même cette créativité dans ton équipe. Ouais. Et quand tu as un Griezmann au top, ce qui était le cas en 2018, ouais, avec un Pogba en premier relanceur, eh bien, tu as marqué des très beaux buts à la Coupe du Monde 2018. Ouais. Ce n'est pas que du jeu restrictif. Ce n'est pas vrai. 2018, il y a des moments, des phases de jeu où on s'est régalé, notamment en finale, ou contre l'Argentine, et même contre la Belgique, où on doit les assassiner en fin de match.
Mais tu avais Paul Pogba en 2016 aussi.
Oui, mais peu importe.
Ah oui, 2016, contre la Belgique,
2016, ça remonte quand même. C'est
un miracle,
Pierrot.
Tu m'as demandé mon avis, laisse-moi au moins finir. Moi, ce qui m'inquiète sur cet Euro 2024, c'est que tu n'as pas ce créateur-là. Et que pour moi, c'est plus important encore que retrouver un Mbappé au top, parce que je ne suis pas sûr qu'on puisse l'avoir, c'est d'avoir un Griezmann au top. Si tu n'as pas un Griezmann qui sert ses attaquants, parce que ses attaquants, ils ont quand même des qualités, même Thuram qui n'a pas fait un bon match, même Kolo Muani qui a été horrible saison, mais qui a prouvé déjà en équipe de France. Si Griezmann arrive à servir ses attaquants, je pense qu'on peut faire quelque chose sans cet élément-là.
Oui, mais attends,
je vois pas comment on va battre les meilleures nations du monde.
La question. 2018, où est l'Allemagne, où est l'Espagne ?
2018, ouais, l'Allemagne, l'Espagne marque pas un but, ils sortent contre le Maroc.
Non, en 2018, ils sortent contre la Russie en 8e, et l'Allemagne, ils sortent au premier tour. C'est-à-dire qu'on n'avait pas une grande Allemagne, une grande Espagne.
Là, oui, mais t'avais d'autres grandes nations.
Enfin, oui, d'accord.
T'avais la Belgique qui était extraordinaire.
Oui, t'avais la Belgique, mais dans le jeu, c'était pas du niveau de ce qu'on est en train de voir de l'Allemagne et de l'Espagne. C'est-à-dire que nous, par rapport à 2018, je pense que dans notre expression collective et individuellement, on a régressé, et puis notre plan Les adversaires le connaissent de plus en plus. Et moi, je trouve qu'il y a certaines équipes qui sont bien meilleures qu'à l'époque, et notamment Allemagne-Espagne.
Le contre ukrainien Arnaud Valadon.
Avec le ballon pour Mudryk. Oh, c'est mal donné de la part de Yaremchuk. Ça sort le poteau quand même. Ça sort le poteau quand même, même si Dubravka avait bien
son ballon n'est pas bon.
Bouché son angle. Et pourtant, Mudryk lui avait donné un très bon ballon à Yaremchuk qui a fait un contrôle orienté absolument magnifique dans le rond central pour amorcer ce contre ukrainien. Enfin, un petit peu d'activité. Mudryk qui reste au sol, qui se plaint peut-être d'une crampe. Un but partout. Il reste un petit quart d'heure. 16 minutes pour être précis entre la Slovaquie et l'Ukraine.
On remercie Yannick. France-Pays-Bas, on va en parler côté Pays-Bas dans un instant avec les infos sur la sélection batave avec Johan Crochet. Vous êtes dans l'Intégrale Euro 2024, un partout entre la Slovaquie et l'Ukraine.
RMC Intégrale Euro. RMC Intégrale Euro.
Pierre Dorian.
Intégrale Euro 2024 avec Kevin Diaz, Walid Acharchour et Roland Courbis. Arnaud Valadon pour commenter Slovaquie-Ukraine et puis bien sûr l'équipe de France car à 21h c'est le deuxième match des Bleus face aux Pays-Bas à Leipzig. Leipzig, on y retourne très vite. Mais d'abord on va parler de l'adversaire des Bleus. On accueille Johan Crochet. Salut Johan.
Bonjour messieurs.
Johan, j'espère que tu as des infos à nous donner. On se rapproche du match et il y a pas mal de petites choses qui filtrent. D'abord le point sur la rencontre Slovaquie-Ukraine, un quart d'heure à jouer, Arnaud Valadon.
La 76e, un U partout et visiblement Dubravka a légèrement dévié avec son genou sur son poteau, sur cette frappe de Mudryk qui est revenu en jeu. Je ne sais pas si Rebrov a prévu de le changer pour la dernière session de changement des Ukrainiens qui sont revenus au contact dans cette deuxième mi-temps. Un but partout, le dernier quart d'heure entre la Slovaquie et l'Ukraine ici à Düsseldorf.
Alors Johan, quelles sont les infos en provenance de Leipzig? Est-ce qu'il y a des compos probables qui tournent?
Ouais, exactement. Et il y a une surprise parce que dès le premier match contre le premier match des Pays-Bas contre la Pologne, on avait évoqué après le match la prestation de Xavi Simons et on avait évoqué aussi la possibilité que Frimpong soit aligné parce qu'il amenait un petit peu plus de choses, un petit peu plus de dynamisme, beaucoup plus de vitesse, même si Xavi Simons en a également et c'est une de ses qualités. Mais Frimpong apparaît comme un titulaire crédible aujourd'hui au poste d'ailier droit et non pas d'arrière droit, dans une sorte de 4-3-3 mais qui sera assez modulable, on l'a déjà vu lors du match contre la Pologne.
C'est le Rabiot de la Hollande.
Dans un autre profil, c'est quand même beaucoup plus offensif.
C'est beaucoup plus dur,
Oui. En quelque sorte, on va dire que c'est pas un ailier de formation, mais c'est quand même un joueur qui est très très offensif. D'ailleurs, c'est une force et une limite. On sait que Ronald Koeman a longtemps hésité avant de l'appeler parce qu'il estimait que c'était pas un défenseur. Et peut-être d'ailleurs que la deuxième partie de saison de Leverkusen avec un Frimpong beaucoup plus haut lui a donné l'idée aussi de le convoquer pour le mettre un cran plus haut, et il l'avait fait en match de préparation et donc au poste d'ailier droit. Mais la vraie surprise, messieurs, et je pèse mes mots, et je suis déjà déprimé d'avance,
c'est
Wijnaldum titulaire.
Oh non.
Alors je peux vous dire que
on va voir un beau match ce soir.
Il y a eu une très grosse
Il
y a déjà une très grosse incompréhension aux Pays-Bas. Parce que dans la compo qui a été annoncée par AD et qui a été confirmée ensuite depuis, dès que le nom de Wijnaldum est apparu, évidemment tous les éditorialistes, les journalistes, les consultants se sont un peu exprimés. Et pour, par exemple, on va en citer quelques-uns, mais Kenneth Perez, que connaît Kevin, qui est un ancien joueur d'Eredivisie, qui bosse à ESPN.
Qui est danois.
Ouais, exactement, qui bosse à ESPN, qui est un consultant phare de la chaîne américaine. C'est pas loin d'être la catastrophe d'avoir Wijnaldum titulaire.
Bah, vu sa dernière rentrée contre le.
Il faut quand même rappeler que sur 32 minutes de jeu de mémoire, avec les arrêts de jeu, il a touché 6 ballons lors de l'entrée en jeu contre la Pologne. Pour quelqu'un qui est censé être au cœur du jeu, moi j'ai aussi en souvenir évidemment les matchs, le peu de matchs qu'il a fait avec la Roma où c'était absolument catastrophique, et pas simplement parce que tu revenais d'une grosse blessure et donc qu'il y a toujours des doutes plus l'âge avance sur comment tu reviens, etc., mais dans la personnalité, dans le fait de cacher
déjà, c'était catastrophique,
d'avoir zéro motivation, d'avoir l'impression d'être là sans être là. Comment, Pierre ?
Il joue en Arabie Saoudite, là. Hein.
Ouais, ouais, tout à fait. Et Koeman est allé le voir il y a quelques mois pour. Parce qu'il n'était pas appelé au début, hein, mais Koeman est allé le voir. On sait que c'est un peu son chouchou. Je rappelle à chaque fois, mais que lors de son premier passage à la tête de sélection nationale, Koeman avait installé Wijnaldum en 10 avec Depay en faux 9. Et les deux avaient une très très bonne liaison sur le terrain. En gros, Depay décrochait et Wijnaldum prenait la profondeur et ça marchait extrêmement bien.
Moi, je me rappelle de son début d'Euro 2021. Il était très bon,
Wijnaldum. Ouais, exactement. Et ça marchait vraiment bien, cette formule-là. Le problème, c'est que c'était il y a 3 ans, 2 ans, 3 ans, et qu'aujourd'hui, on est avec un joueur très différent.
Et but ! But pour l'Ukraine, c'est Yaremchuk sur ce magnifique ballon, un peu en cloche dans la surface de réparation, plein axe. Il contrôle du bout du pied pour ensuite eh bien, frapper, mettre presque un petit pointu, je crois, pour battre Dubravka. Et l'Ukraine, qui était menée 1-0 à la pause, à 10 minutes de la fin, mène désormais 2-1 face à la Slovaquie.
Très beau but. Beau but, ouais. Ça y est, on a enfin vu des belles choses.
Le contrôle de Yaremchuk, la passe juste avant.
Bon, il reste 10 minutes, il ne se passait plus grand chose.
Le dernier quart d'heure de la première mi-temps.
C'est qui la passe ? C'est
qui
la passe ?
Ça va nous animer la fin de match.
On est quand même.
C'est pas Tsoudonkov, non ?
Est-ce que j'hésite entre Tsoudonkov et Chaparenko ? On a juste vu un petit ralenti et avec ce magnifique contrôle là, qu'on voit Yaremchuk en bout de course et juste après la deuxième touche pour croiser un petit peu de l'entraîneur. Et Skriniar était à deux doigts de sauver le ballon avant qu'il ne rentre dans les buts.
J'ai vu Skriniar sprinter.
Ouais. Et pas se blesser.
Et du coup, il y a eu but quand même.
Mais il était pas loin de la sauver quand même, Skriniar.
Il doit la sauver, Skriniar. Je suis désolé, moi. Je suis désolé, mais il doit la sauver.
Pas Carl Lewis. Là,
je suis désolé, il doit la sauver.
Mais après, il faut enlever la caravane aussi.
Il y a le caddie de Carrefour là derrière, là, qui.
Ça serait claqué. Hein.
Qui rouille. Qui est rouillé.
Bon, ça fait 2-1 en tout cas pour l'Ukraine. Face à la Slovaquie, il reste 10 minutes dans le temps réglementaire. Donc, les infos que nous donne Johan sur les Pays-Bas vous inquiète sur la qualité du match qu'on va voir. Là,
ce que disait tout à l'heure Kevin, c'est ce que j'ai dit. Que chacun en fait veut.
Bah, je t'ai dit,
veut bloquer l'autre.
Ouais. Là, c'est.
Donc on va gagner 1-0.
C'est l'équipe de France qui veut bloquer les Pays-Bas et les Pays-Bas qui veulent bloquer l'équipe de France. Donc forcément, ça va être compliqué.
0-0 dans cet euro là.
Non, après peut-être pas forcément un 0-0, mais je suis pas sûr.
0 euro.
Je suis pas sûr que ce soit un match très très spectaculaire comme on est en train de le voir entre la Slovaquie et l'Ukraine. Maintenant. Moi, concernant Wijnaldum, qui est un joueur, c'est pas facile quand c'est un joueur que t'as beaucoup apprécié, etc. Mais aujourd'hui, ouais, je pense en effet que c'est terminé. Et puis derrière, les Pays-Bas, c'est une équipe comme je disais tout à l'heure. Si tu les laisses jouer, attention, ils ont de la qualité technique, ça c'est sûr. Peut-être qu'il y a le milieu de terrain du PSV Eindhoven, Schrauten, qui est quand même un bon joueur, même si Walid a un dédain sans nom pour le PSV Eindhoven.
Non, comme non, j'ai vu juste que par rapport à ce qu'on a, non, par rapport à ce qu'on a connu, c'est.
Mais,
non.
Oui. Mais c'est un bon joueur quand même. Et surtout, c'est des joueurs, si tu les laisses jouer, ils l'ont montré contre le Canada en match de préparation, ils sont capables de te faire mal quand même. Maintenant, si tu les malmènes et si c'est toi qui es protagoniste, c'est une équipe qui n'est pas très à l'aise. Quand un peu à l'image de l'Italie hier, qui peuvent être en grande difficulté si tu les agresses et si tu mets un gros pressing. J'ai pas l'impression que c'est ce que va faire l'équipe de France, donc je suis très très curieux de voir ce match.
Merci beaucoup Johan pour les infos sur les Pays-Bas. Xavi Simons a priori paye
sur le banc.
Paye son mauvais match contre la Pologne.
Ouais, parce qu'au-delà même de ce qu'il pourrait rater ou réussir, c'est juste qu'il a montré une personnalité un peu limitée, où il s'est un peu caché, il a pas trop demandé le ballon. Donc ça, forcément, dans une compétition comme l'Euro où chaque match est très important, bah, t'apprécies pas trop quand t'es entraîneur. Et en plus,
Koeman n'a pas aimé.
Quand t'as un joueur comme Frimpong sur le banc, bah, autant t'en servir aussi.
Merci beaucoup, Johan. Un instant, qu'est-ce qui ne tourne pas rond avec cette équipe d'Angleterre qui a souffert face au Danemark ? On revient tout de suite. L'Ukraine mène 2-1 face à la Slovaquie. C'est l'Intégrale Euro 2024 sur RMC.
RMC, Intégrale Euro.
Pierre Dorian.
Intégrale Euro sur RMC, il est 16h41. Walid Acharchour, Kevin Diaz et Roland Courbis. Il reste 7 minutes entre l'Ukraine et la Slovaquie. Arnaud Valadon.
Et la faute provoquée par. Récupérée par Milan Skriniar sur Yaremchuk. Donc coup franc pour les Slovaques à une trentaine de mètres, légèrement excentré sur le côté gauche. Il a pris un petit peu ses responsabilités, Skriniar. Il a voulu rentrer, l'été pas attaqué. Et il s'est fait tacler, on dit vulgairement, un peu un tac d'attaquant. C'est-à-dire, sans que ça soit violent, mais un petit peu bête. Ça offre un coup de pied arrêté aux Slovaques qui sont menés 2-1 et ça relancerait tout, hein, cette victoire. victoire ukrainienne dans ce groupe, parce que les Slovaques qui ont gagné sont à 3 points. Ils ont gagné contre la Belgique lors de la première journée. Les Ukrainiens reviendraient à hauteur avant un Roumanie-Belgique. Les Roumains, eux aussi, à 3 points, qui auraient lieu demain. Ils sont deux Slovaques. Il reste 6 minutes à jouer dans le temps réglementaire. 2-1 pour l'Ukraine. Yakuka qui est présent notamment. Ce sera pour lui enroulé. Il va essayer de frapper directement, que c'est raté. Directement sorti de but.
Merci Arnaud. 2-1. Il reste 6 minutes. L'Angleterre face au Danemark, c'était pas terrible.
Le but danois, le but extraordinaire de Morten Hjulmand. C'est mérité pour les Danois, la frappe de 35 mètres. C'est son premier but. Et Hjulmand qui envoie au paradis 20 000 Danois. Ça fait un partout entre le Danemark et l'Angleterre. C'est terminé. Monsieur Soares Dias siffle la fin du match. Tout le monde est mécontent. Personne n'est ravi de ce résultat. Les Anglais sont sifflés parce qu'ils n'ont pas proposé grand-chose. Et les Danois enchaînent un deuxième match nul malgré un très très bon match. Ouais. T'as un partout entre le Danemark et l'Angleterre.
Un partout entre le Danemark et l'Angleterre. Julien Laurence nous rejoint dans l'Intégrale Euro 2024. Notre spécialiste du foot anglais. Salut Julien.
Salut à tous.
Alors, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui tourne pas rond dans cette équipe d'Angleterre présentée, je pense à juste titre, hein, comme un des favoris de l'Euro, en tout cas avec de sacrés bons joueurs dans cette équipe. Mais alors, non seulement le résultat n'est pas terrible face au Danemark, mais c'est le contenu qui inquiète, Julien.
Oui, parce que tu as raison. Dans les comptables, si on prend la situation comptable, ils ont 4 points, ils vont finir premier du groupe, parce que je pense qu'ils n'auront pas trop de mal dans le dernier match non plus. Donc ils vont se qualifier et c'est voilà, à ce niveau-là, il y a rien d'alarmant finalement, c'est pas comme s'ils avaient 0 point ou 1 point après 2 matchs. En revanche, tu as raison, dans le contenu, c'est très décevant. Ils ont été sifflés hier, on a entendu Aurélien en parler. Ils prennent très cher depuis hier soir.
Dis-nous tout, est-ce que l'opinion publique se retourne contre son équipe?
Oui, complètement. Alors Southgate qui avait été plutôt épargné par le passé parce qu'il y a quand même des bons résultats, on l'a assez dit, même si chez nous on a quand même dit la vérité depuis plusieurs années maintenant, mais c'est vrai que les Anglais l'épargnaient un petit peu. Là, c'est un déferlement absolu sur les réseaux sociaux, à la télévision, à la radio, dans les journaux, partout. Comme on le disait aussi hier avec Daniel et Flo, c'est aussi la faute des joueurs. Il ne faut pas oublier que Southgate, certes, est incompétent tactiquement, mais ça, on le savait depuis longtemps. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas la première fois. On l'a vu par le passé, dans des gros matchs, dans des matchs moins importants. Hier, il a encore
fait n'importe quoi. Il y a des joueurs qui doivent faire mieux.
Ouais. Exactement. Il y a des joueurs qui, même s'ils ne sont pas forcément à leur place, même pas forcément dans le meilleur environnement pour eux, on tente quand même beaucoup plus que ce qu'on a vu hier, surtout hier, Foden et Saka, et Bellingham aussi. Alors, il y a eu un petit changement tactique. Rice aussi, non, mais c'est vrai, mais de toute façon, tout le monde, hier, ça joue pas bien du tout.
Hormis Walker et Gueye, que j'ai trouvé.
Oui, Gueye qui a bien enchaîné sur les deux matchs, forcément, il est bien.
Mais sinon,
c'est catastrophique, là. Et après, peut-être, juste pour finir, et pour être un peu plus précis tactiquement, pour moi, les deux points les plus faibles, le pressing, catastrophique, aucune structure de pressing, c'était du grand n'importe quoi. Certains y allaient, d'autres n'y allaient pas, et c'était tellement facile pour les Danois de repartir de derrière. Et puis après, leur construction à eux avec ballon, encore une fois, trop insuffisant, l'expérimentation. Trent Alexander-Arnold au milieu de terrain, on en avait déjà parlé après le premier match. Il a remis la même équipe. D'ailleurs, la dernière fois qu'il avait mis deux équipes de suite dans deux matchs consécutifs, ils avaient perdu contre la France au Qatar à la Coupe du Monde. Et que Southgate explique après le match que Trent au milieu de terrain, c'est une expérimentation. Quand tu es dans un euro, c'est incompréhensible qu'à ce niveau-là, le gars fasse des tests, des essais.
Et la déclaration derrière, Julien, quand il dit on n'a pas trouvé de remplaçant à Calvin Phillips, alors que depuis 2 ans, Calvin Phillips, il est à la cave complet.
C'est complètement fou, ça fait 8 ans qu'on cherche. Mais c'est pas... si pendant 8 ans t'as cherché, c'est que t'es vraiment, vraiment nul. Hein, parce que t'as toujours pas trouvé.
Qui pourrait occuper ce poste? Il y a Maino.
Non, mais moi je l'ai dit depuis un long moment. Bellingham doit jouer numéro 8 à côté de Declan Rice et Foden en 10. Je ne comprends pas. Pour moi, Bellingham n'est pas un numéro 10. C'est pas un créateur. C'est un super numéro 8 capable de prendre le ballon, d'arriver lancé dans la surface de réparation. Mais quand il joue arrêté avec le ballon, je préfère Foden dans les premiers mètres, dans ce qu'il peut réaliser en termes de créativité. Et Bellingham, tu lui demandes beaucoup trop dans ce poste-là.
J'ai une question, Julien. Est-ce qu'il y a un débat en Angleterre sur le manque de profondeur, je parle littéralement dans le jeu. Aujourd'hui, qui prend la profondeur aujourd'hui en Angleterre? Parce que si tu te rappelles bien, à la Coupe du Monde, c'était Marcus Rashford qui, en super sub, rentrait et a fait partie notamment de contre-attaques éclair, où il a mis d'ailleurs, je ne sais plus, c'est...
C'est contre le Pays de Galles.
Voilà, ce genre de profil qui est quand même intéressant, c'est-à-dire des joueurs qui prennent la profondeur. Aujourd'hui, il faut trouver, et pour moi, hein, encore une fois, même si c'est vrai qu'il a une saison compliquée cette saison, mais pour moi, il faut trouver le Hoodminson à Harry Kane, c'est-à-dire le joueur qui va profiter des décrochages d'Harry Kane. Et je pense que Marcus Rashford a toujours eu ce profil, même si, ok, si c'est pas lui, ça peut être un autre, ça peut être un Olise, je sais pas, ça peut être quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, est-ce qu'il y a ce débat-là sur le jeu?
Mais Aizé, c'est pareil, il prend pas la profondeur, ouais, c'est un vrai 10. Lui, alors lui, c'est un vrai 10 à l'ancienne, qui aime le ballon dans les pieds et qui est un des meilleurs dribbleurs.
Mais même Julien.
Non, mais t'as raison, Gordon peut-être. Gordon pourrait le faire. Gordon, Isak décroche aussi pas mal avec Newcastle. Gordon fait une très belle saison. Gordon, Maynou et Cole Palmer. Donc 3, on l'a dit un petit peu hier.
Pourquoi Cole Palmer n'a pas joué? Autre question.
Non, mais écoute, c'est encore pire, Kev, c'est encore pire que ça. Les 3 là, donc Maynou, révélation de la saison avec United. Un gars qui a, si tu cherches un joueur en plus qui peut t'aider dans la construction du jeu, à jouer sous pression, il est tellement à l'aise, balle au pied, qu'il peut être parfait pour ce rôle-là. Gordon, on l'a dit, très belle saison avec Newcastle, il peut t'offrir cette profondeur-là, c'est le joueur le plus rapide de ton effectif, il est plus rapide que Walker. Et le dernier, Cole Palmer. Le gars, il n'y a personne en première ligue qui a eu plus de buts ou de passes décisives que lui combiné. Tu les fais jouer 4 minutes, donc les 3 ensemble, ils ont joué que 4 minutes. Depuis le début de l'Euro, c'est du grand n'importe quoi.
Dernière chose, Julien, est-ce qu'il y a des infos sur la cohésion du groupe? Est-ce que ça commence à se tirer dans les pattes aussi à l'intérieur de l'équipe, ou tout va bien de ce point de vue-là?
Non, je crois qu'à ce niveau-là, ils ont vraiment un bel état d'esprit. Je crois que ça s'entend vraiment.
Bon, bel état d'esprit a priori dans l'équipe d'Angleterre, même si la ligne a coupé avec Julien.
J'ai une question pour Pierre Dorian. Oui. Tu trouves que Gareth Southgate est un grand sélectionneur?
Pourquoi tu me demandes ça?
Réponds-moi. Est-ce que tu penses que c'est un grand sélectionneur?
Bon, je pense.
Est-ce que tu penses qu'il est meilleur?
Une génération assez intéressante et qui devrait. Normalement, si cette équipe-là ne gagne pas un Euro.
Ok. Est-ce que tu penses qu'il est meilleur que Didier Deschamps?
Ah non, je pense que Didier Deschamps est un très bon sélectionneur.
Et bien meilleur.
Oui, ah oui,
Deschamps d'accord. Meilleur. Et pourtant, Gareth Southgate a perdu la finale du dernier Euro au pénalty, par exemple.
Oui,
donc
mais
c'est
si
quoi, on est à un pénalty d'être un bon sélectionneur ou de ne pas être un bon sélectionneur?
Non, c'est pas ça.
Ma question, c'est qu'il a fait demi-finale de Coupe du Monde en 2018.
Aussi,
il a fait finale d'Euro. Là, il a fait quart de finale où ils étaient quand même, on est tous d'accord pour dire qu'ils étaient meilleurs que la France, en tout cas sur les 90 minutes où ils sont éliminés. Donc c'est pour ça que je te dis, attention, parce que quand on juge un sélectionneur uniquement sur un titre ou pas un titre, ou sur des demi-finales et des finales, et bah, quand on compare avec certains autres, on
Domènech,
peut être
c'est pas un bon sélectionneur, il a perdu au tir au but.
Et au lieu de comparer les deux sélectionneurs, est-ce qu'on peut pas aussi comparer?
Gareth Southgate s'inspire de Didier Deschamps.
Les deux effectifs.
Sauf que ton raisonnement, il est un peu,
quel est le meilleur effectif?
Il est un peu fallacieux dans le sens où l'inverse n'est pas vrai non plus. C'est-à-dire, c'est pas parce que Gareth Southgate n'est pas forcément un grand sélectionneur que tu fais parallèle forcément avec Deschamps.
À peu près la même chose des deux.
Les deux effectifs.
Deschamps a déjà prouvé qu'il savait tirer le meilleur d'un groupe avec une idée de jeu qui n'est pas forcément la tienne, qui n'est pas forcément la mienne, peu importe. Je pense que ses plans marchent.
C'est son groupe, etc.
Ses plans ont marché une fois.
Ouais. Je ne suis pas d'accord parce qu'il a toujours l'adhésion de ses joueurs. Il a toujours.
Gareth Southgate.
Il va toujours au-delà presque de ce qui est possible. Parce que quand la finale, tu me l'as dit toi-même en 2022, elle est presque miraculeuse.
Moi, donc je te dis sincèrement, Southgate, heureusement que je ne suis pas anglais. Hein, parce que sincèrement, ce qu'on lui mettrait dessus, avec l'exigence que j'ai moi avec Didier Deschamps.
Deschamps n'a pas le même matos en ce moment que Southgate aussi.
Après, il a un très bon matos quand même, Deschamps. Parce que Deschamps,
il a moins de qualité technique.
Deschamps, il n'a pas Fernand Mendy.
Les Anglais sont en meilleur effectif.
Moi, je trouve.
Mais pas il y a 4 ans, pas il y a 6 ans.
Attention, ça dépend des secteurs. Parce que je suis désolé, mais en défense centrale, quand tu dois faire jouer Marc Guéhi, joueur de Crystal Palace, ou tu as Lewis Dunk, joueur de Brighton, en troisième solution, que tu n'as pas de latéral gauche, tu es obligé de faire jouer Trippier, qui est droitier, latéral gauche, pendant que nous, on a Théo Hernandez et Fernand Mendy.
Tu n'as toujours pas remplacé, selon lui, Calvin Phillips, c'était il y a 6 ans.
Exactement. Donc attention sur l'effectif aussi. Tu as quand même 4-5 joueurs de Crystal Palace dans l'effectif de l'Angleterre. Mais là où je te rejoins, Pierrot, sur Southgate, c'est que quand tu vois ces 3 changements hier, à la 70e, alors que Foden commençait un petit peu à dézoner, à être meilleur dans l'axe, et qui te sort Harry Kane, il te sort Foden et Saka, les 3 en même temps, pour mettre Eze, Watkins et Bowen, les 3, ils étaient en stage de découverte de 3e, comme ça, ils se disaient, mais attendez, mais où je suis là? Les mecs, ils n'ont pas le rythme du match. Comment tu peux changer une ligne d'attente attaque comme ça complète. C'est pas possible.
Complète et complémentaire.
Et voilà, c'est ça. Les Harry Kane ou les Foden, laisse un des trois pour que les mecs, ils ont un peu le rythme du match. C'est abominable.
En
c'est
tout
abominable.
Cas, les Anglais ont 4 points, comme le disait Julien Laurence. Pour l'instant, du point de vue comptable, tout va bien. Il faudra faire mieux, en tout cas, pour aller au bout de
la tour. Il a cassé le rythme de son
ça,
équipe.
Ça, c'est certain. Il reste quelques secondes aux Slovaques pour égaliser face à l'Ukraine. Arnaud Valadon.
1 minute 10, 2-1 pour l'Ukraine face à la Slovaquie. 1 minute 10 dans le temps additionnel. Les Slovaques qui poussent énormément avec le ballon sur le côté gauche avec Sauer. Sauer qui a remplacé le buteur Schrantz. Le centre à venir, c'est renvoyé par la défense ukrainienne. Ça va être récupéré par Lobotka dans les 40 derniers mètres. Il n'est pas encore monté, le gardien slovaque Dubravka. Allez, les Slovaques à l'attaque avec Obert sur le côté gauche près de la surface de réparation. Tous les Ukrainiens sont revenus défendre. 45 secondes encore à jouer. Skriniar qui a la balle, qui va frapper, c'est contré. La frappe de Skriniar qui était quand même à plus de 35 mètres. Hein. Présomptueux Milan Skriniar là-dessus. Le ballon toujours slovaque sur le côté droit avec Vavro qui a manqué une reprise hein, sur un corner. Il a récupéré le deuxième ballon au deuxième poteau. Il a totalement raté sa reprise alors qu'il avait quand même un angle assez intéressant. Le ballon sur le côté gauche, les Slovaques qui se marchent un peu dessus avec Sauer. Est-ce que ça va être récupéré par les Ukrainiens? Non. Les Slovaques qui continuent d'insister cette fois-ci sur le côté droit avec Suslov. Ce sera peut-être la dernière occasion. Il reste 20 secondes. 20 secondes, Suslov qui est passé et qui ne va pas obtenir de corner.
De l'égalisation.
Non, 6 mètres, 6 mètres, je crois.
6 mètres, oui, oui. Il n'obtient pas de corner, 6 mètres.
Alors c'est terminé. Sur les gardiens qui montent en fin de match, Roland, je pense qu'ils font une grossière erreur parce que dans ces poules où tu peux sortir troisième ou un plus un ou un moins un peut être déterminant.
Tu penses à la Géorgie.
Exactement, le gardien géorgien a fait n'importe quoi de monter sur ce premier match.
Ça fait 2-2 derrière.
Oui, ça fait 2-2 derrière, mais enfin un but de gardien, ça arrive une fois tous les 50
est-ce
ans.
Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que à chaque fois qu'il y a un gardien qui monte, en fait, il laisse un joueur derrière? Donc quel est l'intérêt en fait? Quel est l'intérêt de faire monter tous les joueurs pour laisser un joueur derrière?
Parce que ça c'est peut-être
le petit final, Arnaud.
Et l'Ukraine a renversé la Slovaquie, menée 1-0. Les Ukrainiens s'imposent. Chaparenko, Yaremchuk pour les buteurs, Schrantz pour les Slovaques dans un groupe E totalement débridé. 3 points pour les Slovaques, groupe, 3 points pour les Ukrainiens en attendant demain. Belgique-Roumanie.
Belgique-Roumanie demain 21h. Si la Belgique bat la Roumanie, on peut avoir 4 équipes à 3 points. Belgique-Ukraine sur le dernier match. Et Slovaquie-Roumanie sur le dernier, ça va être fou.
Bon, du coup, on ne peut toujours pas se projeter sur
l'adversaire de l'équipe de France.
De toute façon, on va voir ce que ça donne face aux Pays-Bas. Si la France gagne et que la Pologne ne gagne pas à 18h face à l'Autriche, la France sera assurée d'être première. Merci beaucoup Arnaud Valadon. On continue cette intégrale Euro 2024 avec Roland Courbis, Kevin Diaz et Walid Acharchour. On reparle des Bleus dans un instant. Thuram joue-t-il gros ce soir? 32-16, on vous attend. Et puis on va faire une entorse au foot dans cette intégrale Euro parce que ce soir il y a un gros match aussi, 20h15 pour la première demi-finale du top 14, le championnat de France de rugby. Je sais que ça t'intéresse, Roland.
Ah ben, des matchs comme ça, oui.
La Rochelle, à tout de suite.
RMC Intégrale Euro.